France Musique.
Il n'y a rien à faire, de Wagner, on ne sort pas. Une fois le doigt mis dans l'engrenage, tout vous y ramène irrésistiblement. 25 ans après sa découverte émerveillée de la colline sacrée, notre philosophe y revient pour tout repenser et tout reprendre sous la houlette de deux admirables trublions. Alain Badiou, philosophe et mélomane, épisode 7, retour à Bayreuth. Prélude de l'ordure de Richard Wagner, c'était Pierre Boulez à la tête de l'orchestre du festival de Bayreuth après les représentations célèbres de 1976 et toutes celles qui ont suivi, dont on va parler largement tout au long de cette émission. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
D'abord, avant de parler du ring, les pages orchestrales de Wagner, il y en a quelques-unes quand même, comme celle qu'on vient d'entendre, à d'autres moments de son œuvre aussi, parfois plus longues encore. On a parlé déjà dans cette émission de la théâtralité de Wagner, comme si finalement ces pages risquaient de la corrompre, cette théâtralité, non ?
Je suis pas sûr, parce que, en réalité, elles sont toujours disposées dans des moments, en quelque sorte, stratégiques du développement de l'opéra. Et elles sont souvent une anticipation de la situation. Alors, dans le cas, par exemple, de l'ouverture de l'Ordurin, on a de toute évidence une musique qui se veut une musique de création du monde. C'est-à-dire une espèce de demi-chaos musical bâti sur un accord de mi bémol qui se prolonge indéfiniment tout du long, comme si le monde allait surgir, comme cela, d'une matrice musicale. Et on va enchaîner de façon directe sur les Filles du Rhin, sur l'interprétation des Filles du Rhin. Si on songe aux ouvertures, qui sont des grandes pièces quelquefois, l'ouverture des Maîtres Chanteurs ou l'ouverture de Lohengrin, on voit que tout de même, elles sont toujours greffées dans une sorte d'annonce de ce qui va se passer. Mmh. Elles sont bâties autour des thèmes principaux de l'œuvre, la plupart du temps, ceux qu'on va retrouver tout du long comme jalonnant le récit de l'histoire. Et si on pense à des interludes plus singuliers, comme ceux par exemple soit du premier acte, soit du troisième acte de Parsifal, ce sont des morceaux qui pratiquement réalisent une théâtralité particulière parce qu'ils sont comme un récit. Ils récitent quoi ? Eh bien, ils récitent le passage du monde sauvage de la forêt au monde civilisé, du temple où la religion est célébrée. Et donc je pense que Wagner reste un homme de théâtre, y compris lorsque il produit comme ça des grands moments strictement musicaux.
Un narratif, quoi qu'il en soit.
Absolument, absolument.
Ouais. On vous a laissé Alain Badiou, jeune homme, à Bayreuth, sur la colline sacrée, en 1952, quand vous voyez naître en quelque sorte le nouveau Bayreuth. Vous y êtes retourné quelques fois par la suite, mais par une petite période d'éclipse, je crois, jusqu'à 1976, la grande production chez Roboulez.
Oui, je l'ai vu vers sa fin. Je l'ai vu en 79.
Qu'est-ce qui vous a amené là-bas à Bayreuth d'ailleurs?
Oh bien, m'avait amené à Bayreuth mon ami François Regnault, mon camarade philosophe François Regnault, qui participait en réalité à l'entreprise, car il avait été conseiller dramatique de Patrice Chéreau pendant toute la réalisation de cette extraordinaire épopée.
Ah, et c'est lui qui vous a dit, faut que tu viennes voir ça?
Oui, c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu veux voir ça? Et je lui dis, j'y cours. Voilà.
Et alors, est-ce que ça a été un choc? Parce qu'il paraît que ça a été, alors à la fois pour certains, un choc, pour d'autres, au tout début, on le sait, un sujet de questionnement et de perplexité aussi.
Écoutez, pour moi, ça a été presque immédiatement une sorte d'enthousiasme attentif. Je le dirais comme ça. J'ai tout de suite saisi qu'il y avait dans cette interprétation du Ring une nouveauté exceptionnelle, un angle de vue tout à fait novateur, un accord profond entre le metteur en scène et la direction musicale, une distribution qui avait su se plier aux injonctions théâtrales de Patrice Chéreau, ce qui n'était pas facile. Hein. Chanter un rôle de Wagner, c'est déjà pas de tourpeau, mais le jouer comme le joue, par exemple, Donald McIntyre, qui chantait Wotan, c'est quasiment prodigieux. D'ailleurs, il faut reconnaître que tout le monde n'arrivait pas à s'y plier de la même façon, en particulier, il y a toujours eu des difficultés avec le rôle de Siegfried. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était une prestation théâtrale prodigieuse. Et j'ai quand même eu le sentiment que c'était un événement au sens strict, c'est-à-dire une recréation de l'ensemble de l'œuvre.
Un événement, il faut dire que Wagner pousse à l'événement toujours. C'est ainsi qu'on a appelé la première émission qu'on lui a consacrée autour de Wieland Wagner, comme s'il fallait qu'il y ait dans le grand parcours de ce que c'est que la musique wagnerienne et de ses actualisations sous forme de spectacle, des moments qui rompent le temps comme ça.
Ben ça, je crois qu'il en serait très content, en tout cas. S'il assistait à ces recréations, il serait très content parce que il verrait justement que sa conception, qui était, malgré tout, si je puis dire, de casser en deux l'histoire de l'opéra, avant lui et après lui, continue à produire ses effets, puisqu'on est obligé de casser en deux l'histoire des mises en scène de Wagner lui-même pour reproduire quelque chose comme la nouveauté et l'élan de sa création. Et je crois que c'était le cas avec Wieland Wagner, et c'était le cas dans une direction d'ailleurs entièrement différente, dans le cas de Boulez et de Chéreau.
C'est la théâtralité là encore qui vous a...
C'était la théâtralité, tout à fait, mais c'était une théâtralité tout à fait différente, parce que le spectacle chez Wieland Wagner était un spectacle hiératique, dénudé, avec une espèce de géométrie comme ça de la scène, alors que le spectacle de Chéreau était théâtral dans un sens beaucoup plus animé. C'est-à-dire, il voulait rendre les mouvements, rendre les situations, rendre perceptible ce qui anime les acteurs. D'ailleurs, quand on voit le filmage de quelques-unes de ses répétitions, on voyait à quel point il était physiquement engagé lui-même dans cette mise en scène. Quand il faisait une scène de foule comme au Crépuscule des Dieux, il participe à cette foule corporellement, comme ça, pour lui donner une sorte de vigueur. Et d'ailleurs, il a déclaré lui-même que ce qu'il avait conçu et pensé à propos de Wagner, c'était que c'était une œuvre théâtrale, qu'il y avait théâtre et qu'il allait la mettre en scène selon ses principes à lui d'homme de théâtre.
On va écouter l'une des grandes scènes, l'un des grands opéras du Ring, peut-être le plus grand. La Valkyrie, c'est le duo d'amour entre le frère et la sœur. Les dernières mesures du premier acte de La Valkyrie de Richard Wagner, Pierre Boulez à Bayreuth en 1981. Les deux voix de Sieglinde et Siegmund étaient ici, Janine Altmeyer et Peter Hoffmann, avant de venir sur ce duo sur l'œuvre. Moi, ce qui me surprend dans ce qu'on vient d'entendre, Alain Badiou, c'est l'emportement de l'orchestre, de ce que fait Boulez ici, ce chef qu'on passe son temps à dire, évidemment, qu'il est plutôt analytique, plutôt quelqu'un qui est dans la tenue. Ce qu'on a là, c'est comme un élan irrésistible.
Absolument, et je pense qu'il a été lui-même emporté d'une certaine façon par la théâtralité de Chéroux. Il a été soumis à la théâtralité de Chéroux, parce que ce premier acte de la Valkyrie était une réussite absolue. Enfin, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais l'impression que l'amour était là, vraiment, dans la saisie du coup de foudre. Ouais. C'est ça, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Coup de foudre d'autant plus subtil qu'il est en réalité prédestiné, parce que c'est un coup de foudre entre un frère et une sœur qui ne se sont jamais connus, enfin qui ont été séparés, qui se retrouvent là et qui ne savent pas vraiment qu'ils sont frères et sœurs, ils vont le découvrir plus tard, et qui sont emportés dans un élan amoureux que la musique distribue dans des plans successifs. Théâtralement, c'était magnifique, parce que c'était vraiment comme deux jeunes gens qui se rencontrent là, devant nous, sur la scène, et qui vont être transportés véritablement de façon quasi irrésistible dans des conditions dramatiques, parce que le maître de maison, qui est en réalité le possesseur de la femme, est un ennemi mortel de Siegmund. Donc c'est à la fois, en réalité, sororal, incestueux, anti-paternel, adultérin, enfin c'est absolument...
La totale.
Ça, tous les crimes possibles de la liaison amoureuse sont concentrés dans cette scène. Et donc c'est comme si le désir amoureux était une puissance irrésistible, quelles que soient les normes, quels que soient les contextes. Et ça, c'était vraiment enthousiasmant du point de vue théâtral. Et les deux protagonistes arrivaient à suivre cette dynamique tout en chantant une partition qui, comme toujours chez Wagner, n'est quand même pas absolument commode. C'est réellement le premier acte de La Valkyrie le plus décisif que j'ai vu. Et quand je le revois maintenant, j'ai toujours l'impression que c'est en deçà, que que c'est un peu modéré. Et Boulez, naturellement, donne à tout cet acte une dynamique extraordinaire. Ce premier acte de La Valkyrie est très beau parce qu'il est un mélange d'élan, d'emportement, mais aussi avec de longues phrases tendres, comme ça, avec des airs joués au violoncelle, comme ça, extrêmement mélodieux, extrêmement magnifique. Et on a de véritables airs. Par exemple, à la fin, l'éloge du printemps, fait par Siegmund, est quasiment un magnifique morceau de ténor. Et donc, on a à la fois la dynamique générale et des moments musicaux intenses. Tout ça fait que c'est vraiment une parfaite réussite.
Non seulement dans cette version-là, mais la Valkyrie, en règle générale, qui est peut-être le
ouvrage le plus parfait de tout le ring. Elle parcourt... Et j'estime que c'est l'opéra de Wagner qui est le plus riche en moments musicaux, finalement. Ouais.
Et c'est souvent le préféré de beaucoup de Wagneriens, d'ailleurs. Même parfois devant Tristan.
Oui, je pense. Parce que, d'une certaine manière, on peut trouver quelques moments, quelquefois, aussi intenses, voire plus intenses dans d'autres opéras du ring, mais jamais avec... cette complétude, cette homogénéité qu'on trouve dans La Valkyrie.
Ouais. Est-ce que vous avez à l'époque pu discuter un peu avec Patrice Chéreau, avec Pierre Boulez, avec les gens de distribution, parce que c'était François Regnault qui...
Pas vraiment, nous les croisions un peu, mais en fait ils étaient d'abord occupés, c'était tout de même le moment de la préparation de la Générale. Et puis, au fond, le spectacle, je voulais surtout être présent et co-présent à ce spectacle extraordinaire. J'ai écrit par contre une longue lettre à Chéreau après en lui disant ce que je pensais de son entreprise en général, une lettre évidemment massivement admirative, avec juste quelques petites nuances comme ça concernant certains passages de l'interprétation de Brudil, mais enfin qui étaient des réserves sur la compréhension théâtrale. Mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était magnifique.
Est-ce que ça a changé votre manière de voir Wagner, au sens où ça vous aurait peut-être porté à le parler de manière plus, on va dire, philosophique? Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de Wagner, dans la perspective qui était la vôtre depuis votre expérience de jeune homme face au wagnérisme, de manière plus, je dirais, musicale, plus instinctive. Est-ce que c'est pas Chéreau, finalement, qui crée à un certain moment, et cette mise en scène, la capacité à penser l'œuvre de Wagner aussi?
Oui, je pense que la théâtralité construite par Chéreau donne à l'histoire une lisibilité et un sens plus universel. En particulier, il faut savoir que la mise en scène se déploie dans l'histoire. C'est-à-dire que l'habillement des personnages, donc la datation possible des personnages, n'est pas la même au début et à la fin du drame, comme si un temps historique s'était découlé pendant le rite. Et en fait, effectivement, on est au début dans le monde, en quelque sorte, statique des dieux. Le monde est divisé entre les dieux, les géants et les humains. Et on assiste au fait que les dieux, emportés par leur mégalomanie, d'une certaine manière, construisent un château magnifique qu'ils ont fait construire par les géants, qui sont les prolétaires du coin, les prolétaires de cette mythologie. Et à la fin, par contre, on est au moment où les dieux vont disparaître, les dieux vont mourir, et où l'histoire de notre monde va être léguée à l'humanité, finalement. Donc c'est cette trajectoire que le Ring raconte. Et je pense que Chéreau était attentif au sens de cette histoire, à son orientation, et qu'il voulait la faire saisir en pensée, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de d'un monde où les dieux disparaissent, où les dieux échouent, parce que c'est un opéra tout à fait extraordinaire, c'est un opéra qui raconte l'échec des dieux. Et Wotan, d'ailleurs, va faire un grand monologue où il explique cet échec. Le récit de cet échec des dieux, pourquoi les dieux ont échoué, était rendu lisible dans la mise en scène de Chéreau, entre autres choses par le fait que ça se déployait historiquement, y compris dans la visibilité des costumes, des lumières, des lieux, etc.
Un monologue du Dieu des dieux, bon, on va l'entendre ici, Wotan, pas dans l'acte 2 comme on l'a déjà eu par Hans Rotter, mais ici, juste devant sa fille Brunhilde, avant de la livrer au feu. Wotan endormant Brunhilde sur son rocher à la fin de La Valkyrie de Richard Wagner. C'était ici la voix de Donald McIntyre dans la version Pierre Boulez à Bayreuth.
Alain Badiou, philosophe et mélomane, Lionel Esparza, France Musique.
Vous avez, je crois, Alain Badiou, une affection particulière pour le personnage de Wotan et pour aussi Donald McIntyre, le chanteur qu'on vient d'entendre là, qui pourtant, c'est perceptible, ne n'est pas la voix la plus parfaite. Il y a des fragilités dans cette voix.
Oui, mais je pense justement que il ne faut pas que Wotan soit trop monolithique. Hein. Mmh. C'est un personnage tourmenté, c'est un personnage qui va échouer, qui sait qu'il va échouer, qui est hanté par la figure de son propre destin, en quelque sorte, son propre destin de dieu malheureux et mortel, finalement. Mmh. On le voit se transformer dans l'opéra suivant, Siegfried, en une sorte de vagabond errant à la surface de la Terre, cherchant désespérément une solution introuvable à son drame. Mmh. On peut pas jouer ça, quand même, comme un dieu satisfait de lui-même et absolument inaccessible aux tourments. Et j'ai trouvé que Donald McIntyre donnait à Wotan une présence extrêmement forte. C'est vrai que chez lui, la capacité dramatique était peut-être supérieure à ce qu'était sa voix en tant que voix wagnérienne, encore qu'il tenait quand même bien la partition. Mais je pense que c'était tout à fait intéressant de faire de ce personnage, qui à certains égards est le héros véritable de la tétralogie. C'est l'histoire du dieu, depuis son ambition monarchique absolue, la construction d'un château magnifique, jusque à sa disparition dans la destruction de ce château, dans l'incendie du Valhalla. Et donc ce personnage, qui est un personnage fondamental, je trouve que la dramatisation qu'en donnait Donald McIntyre était absolument remarquable. Ouais. Ce qu'on peut remarquer à propos de cette dernière scène, et qui est un élément important quand même de Wagner et de la culture allemande en général, c'est la figure récurrente de l'inceste. Mmh. Parce que la Valkyrie, ça commence par un inceste frère-sœur et ça se termine par un demi-inceste père-fille, finalement, hein, qui n'est pas réalisé, qui n'est pas effectué, mais qui rôde tout de même de façon évidente. Et ça, c'est une particularité qu'on retrouve aussi dans le grand roman de Musil, etc. Une particularité qui court dans la philosophie et dans la littérature allemande, cette thématique du caractère à la fois singulier, inacceptable et en même temps fascinant de l'inceste. Et la scène est constamment au bord de ce fantasme, la scène des adieux du père et de la fille, parce que ce sont des adieux déchirants et entièrement marqués par une sorte de malédiction amoureuse, quand même, que l'on sent dans la partition.
Et autre chose, dans cette œuvre, La Valkyrie, puis dans l'anneau en règle générale, l'œuvre de Richard Wagner aussi, on pourrait dire, question de la décadence, qui est très présente là. Vous nous dites la figure de Wotan, c'est aussi une figure de la décadence, avec tout ce qu'on peut en penser, c'est-à-dire presque la jouissance de la décadence terminale, le côté crépusculaire, mais peut-être aussi ce qu'on peut tirer comme leçon sur ce que c'est qu'une décadence et comment on peut la faire vivre longtemps, non?
Oui, mais ça pourrait nous intéresser, nous, parce que je pense que nos sociétés sont des sociétés décadentes sans le savoir, et que la question de savoir comment elles vont durer, ou ne pas durer, ou se changer, ou se transformer, ou léguer leur destin à d'autres, est une question qui peut nous intéresser, et qui est la question fondamentale de la tétralogie de Wagner. Ce que je pense, c'est que l'idée wagnérienne, telle qu'il la cherche, sans vraiment la trouver, entre le Ring et Parsifal, c'est l'idée que cette décadence, dont il fait le constat avec une ténacité et force, doit et peut être relevée par une nouvelle promesse. Simplement, je pense que sur cette nouvelle promesse, il ne trouve rien, il ne trouve pas. Musicalement, dramatiquement, il ne trouve pas. Et je crois que c'est quand même l'empreinte chez lui de la déception révolutionnaire de 1848. Wagner a tout de même été quelqu'un qui a été sur les barricades de Dresde, c'est quelqu'un qui a été un révolutionnaire de la génération de 48. On sait que ces révolutions, sans exception, ont échoué, qu'elles ont donné lieu, au contraire, à des constructions réactives, réactionnaires. Et Wagner a oscillé toute sa vie dans la question du bilan de cet échec primordial qu'il avait subi. Et il a tenté de proposer une solution ou une guérison de cette décadence. Le résultat, c'est quand même son œuvre est, à mon avis, beaucoup plus vigoureuse et convaincante quand elle parle de la décadence que quand elle parle du salut.
Celui étant bien sûr Parsifal. On va voir si elle est convaincante, cette œuvre, quand elle parle du héros. Hein. Enfin, le héros, c'est un peu l'idiot du village. Mais enfin, c'est Siegfried qu'on va entendre là.
Ein zankeler Zwerg hat mir erzählt, der Vöglein stammeln gut zu verstehen. Dazu könnte man kommen, wie das wohl möglich wär. Hei, ich versuch's, sing ihm nach auf dem Ohr, tön ich ihm ähnlich, entlall ich der Worte, achte der Weise, sing ich so seine Sprache, versteh ich wohl auch, was es spricht. Schweigt und lauscht, so schwatz ich denn los.
Siegfried, dans l'opéra qui porte son nom de Richard Wagner, bien sûr, entendant un oiseau et se demandant comment il va bien pouvoir comprendre ce qu'il lui dit, essayant de l'imiter, c'était toujours Pierre Boulez qui dirigeait ici à Bayreuth en 1981. Et le Siegfried était celui de Manfred Jung, personnage... un peu comme on va dire, pas très malin, Alain Badiou, dont on se demande comment ça peut être le héros d'une telle épopée. Patrice Chéreau, puisqu'on parle ici dans cette émission évidemment de lui et sa mise en scène à Bayreuth à partir de 1976, disait qu'il avait raté Siegfried. Donc quand on le voit, c'est pas raté, mais c'est vrai que l'épisode du dragon et tout ce qui tourne autour, compliqué quand même, hein.
C'est compliqué, mais je pense qu'il l'a pas raté, il l'a fait comme il est, hélas, d'une certaine façon. Chaque fois que... je veux dire du mal des Allemands, là, mais chaque fois que les Allemands s'engagent dans la construction du héros, du surhomme, etc., ils s'exposent quand même à beaucoup d'inconvénients et en imposent quelquefois beaucoup à d'autres aussi. Hein. Et là, Wagner n'a pas mieux réussi que ses prédécesseurs ou ses successeurs à matérialiser la figure du héros. Ce héros, finalement, ne peut pas en être un pour la raison qu'il est prédestiné à l'être. C'est ça la contradiction absolue. Wotan, finalement, a machiné l'apparition de ce héros dont la liberté doit être absolue et qui doit lui reconquérir en réalité l'or du Rhin que Albéric lui a volé. Et donc, ce pauvre héros est destiné à une manœuvre sournoise de son créateur pour le propre intérêt de son créateur, récupérer le trésor, récupérer l'or, et... comment pourrait-il, dans ce cas-là, être le héros libre et que Wagner, par ailleurs, peut prétendre qu'il est ? Et donc, cette histoire de Siegfried est l'histoire d'un échec. Et c'est ça qu'il y a de réel et de pathétique dans son histoire. D'ailleurs, les plus beaux moments sont les moments où il se rend compte qu'il est en train d'échouer. Au moment en particulier de sa mort, lorsqu'il est assassiné par Hagen dans le Crépuscule des Dieux, Hagen qui par conséquent triomphe du héros à la fin des fins, sans trop de difficultés, oui. Tout d'un coup ce héros trouve une sorte d'humanité frappante dans la mémoire de son amour pour Bodil, et il y a quand même là un moment où ce héros se montre dans ce qu'il est, c'est-à-dire un pauvre homme, mais parvenu à la fin de sa vie. Donc Siegfried, c'est un personnage très difficile à mettre en scène, très difficile à chanter. La partition est extrêmement difficile parce qu'il doit avoir des airs héroïques malgré tout, des semblants d'héroïsme. Et Chéreau disait avoir raté, moi je pense qu'il n'avait pas vraiment raté. Il avait montré les contradictions, étaient flagrantes de ce personnage de Siegfried, qui est un héros sans héroïsme en réalité. Et la musique suit un peu, parce que les thèmes de Siegfried sont des thèmes quelquefois semi-militaires, comme ça, des thèmes un peu sonores, le thème de l'épée, Siegfried porteur de l'épée, etc., qui l'escortent dans une sorte de grandeur un tout petit peu factice. Une scène est assez belle tout de même, un interlude musical, dont, comme nous en avons déjà parlé, à savoir la scène de son cortège funèbre. Elle a tout de même une certaine grandeur, mais c'est quand même la grandeur de la mort, c'est pas la grandeur de l'héroïsme.
Un mot sur lequel Jean Bourdier, à l'instant, aurait pu le faire mille et une fois depuis qu'on a commencé ces émissions, surtout sur Wagner, Alain Badiou, c'est l'amour, tout simplement, parce qu'il y a des questions chez Wagner aussi tout le temps. Vous avez beaucoup réfléchi à l'amour comme, on va dire, l'un des événements absolus de l'existence humaine. Qu'est-ce que nous dit Wagner sur cela ?
Je crois que Wagner est dans une position particulière, ce qui lui a permis à la fois de dire des choses intenses, il faut le reconnaître, et en même temps des choses paradoxales. Parce que l'amour est chez lui toujours marqué d'une figure de prédestination secrète. En été, si je regarde Tristan et Iseult, c'est malgré tout parce qu'on leur fait boire le filtre d'amour qu'ils sont amoureux, on ne peut pas dire le contraire. C'est donc en réalité la servante qui a machiné cet amour. Si on regarde l'amour de Siegfried et de Brünnhilde, il est encore plus calculé. Tout est prévu pour que seul le héros Siegfried puisse franchir le feu et parvenir au rocher où se trouve Brünnhilde. Tout ça parce que, en fin de compte, Wotan tente de machiner quelque chose qui sauverait le monde dans la vision qu'il en a. Par conséquent, ces héros qui sont prédestinés à l'amour rendent l'amour lui-même un peu suspect. D'une certaine façon, je pense que Tristan et Iseult et Sieglinde et Siegmund, que nous avons entendu tout à l'heure, arrivent musicalement à s'en sortir. Alors pourquoi ? Parce que dans le cas de Siegmund et Sieglinde, on a la transgression affichée, hasardeuse et complète en même temps, de l'interdit de l'inceste et de l'interdit de l'adultère, et que c'est le franchissement de ces interdits qui leur donne leur intensité. Dans le cas de Tristan et Iseult, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, effectivement, ils sont prédestinés, mais ils vont accepter, jusqu'à la mort, ils vont accepter ce destin et lui donner toute son amplitude dans une sorte de cérémonie nocturne extrêmement sexualisée, en réalité extrêmement sensuelle, extrêmement violente de ce point de vue-là. Par contre, je pense que sur Siegfried et Brünnhilde, c'est trop retors, c'est trop compliqué, parce que le scénario prévoit que Siegfried devra, ayant bu un filtre, encore une histoire de filtre, les boissons suspectes jouent un grand rôle chez Wagner, après, avec ce filtre, il va encore devoir, en fait, donner sa femme à un autre. C'est quand même une épreuve un peu tirée par les cheveux, ça. Que l'amour soit tel que l'homme ivre livre sa femme à quelqu'un d'autre, c'est tout de même une péripétie un peu inquiétante. Et en fin de compte, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que les grandes scènes d'amour, en particulier la scène d'amour de la fin de Siegfried, quand Siegfried découvre Brünnhilde endormie, et ça se passe pas très bien. Déjà, quand la découvrant dessous son armure et voyant apparaître ses seins, il s'exclame « Oh, c'est une femme !» dans un mouvement absolument horrifié. C'est quand même un début un tout petit peu paradoxal pour ce que va être ensuite son entraînement amoureux.
C'est pas un héros très entreprenant, on va dire.
Un tout petit peu.
Oui. Légèrement timoré. Il a que des défauts, ce pauvre Siegfried. On va voir ce que Hagen nous dit, lui. « Extrait du Crépuscule des dieux de Richard Wagner, le monologue de Hagen, chanté ici par Fritz Hübner, toujours version Pierre Boulez à Bayreuth. Air très impressionnant, on dit qu'il n'y a pas d'air, il y en a quelques-uns quand même ou qui sont s'y apparentent. Hein. Alain Badiou, Fritz Hübner, peut-être dire quelques mots sur ce chanteur et sur ses difficultés dans la production, dans la mesure où elles peuvent peut-être éclairer aussi la vision de Chéreau.
Oui, il semble que ce chanteur était en situation de résistance, voire de quasi-refus, de l'équipe vécue comme l'équipe des Français. Ouais. Hein. Boulez-Chéreau, c'était un débarquement de Français à Bayreuth. C'était, semble-t-il, quelqu'un dans la tradition du nationalisme allemand, qui pensait que la musique allemande devait être faite par des Allemands, dirigée par des Allemands, etc. Et il a été très, très réticent, en position de refus, ne se laissant pas convaincre, rallier, etc. Il a posé d'importants problèmes. Et c'est intéressant que ce soit ce personnage-là, justement, ouais, qui pose les problèmes, parce que c'est celui qui en pose, en réalité, dans l'histoire elle-même. Hagen, au fond, c'est un peu quand même le représentant du peuple humilié dans cette histoire. C'est un homme vassalisé, secondaire, il est devenu le conseiller perfide du roi local, mais il est quand même un ambitieux, amer et aigri. Hein. Et c'est ce personnage qui va, en définitive, venir à bout du héros, qui va l'assassiner traîtreusement, en sachant que si on lui plante un pieu dans le dos, il va mourir. Alors que de face, on n'arrivera jamais, parce qu'il est trop fort. Et donc, il va le poignarder dans le dos, c'est le cas de le dire. Et alors là, on a un monologue de ce personnage. C'est un moment très très beau de l'opéra, parce que Wagner va d'une certaine façon montrer les forces obscures qui meuvent ce héros dans l'orchestration elle-même. C'est une orchestration qui est très intéressante, elle est faite de nappes successives, comme ça, dans les graves, qui semblent raconter une autre histoire que celle que Hagen est en train de raconter, mais qui est la vérité de cette histoire. Parce qu'Hagen est un personnage double. Il est en train de comploter de façon traîtreuse contre ses ennemis. Mais en réalité, il fait bonne figure, il sourit à tout le monde, etc. Et cette duplicité est quasiment incarnée par l'orchestre qui fait contraster des effluves dans les basses et puis le dessin ou l'esquisse d'un dessin mélodique par-dessus. Je trouve ça admirable, et le monologue lui-même est un monologue extraordinairement sombre de couleurs, comme ça, dans lequel le personnage humilié affirme qu'il va prendre sa revanche, que le héros peut bien s'imaginer qu'il est à l'abri, mais il ne l'est pas, le complot qu'on est en train d'organiser contre lui sera victorieux. C'est tout à fait étonnant que ce chanteur, qui était justement dans la position de rébellion contre les héros français venus du dehors, exactement comme Siegfried vient du dehors, dans la cour locale, arrive à chanter ça comme si c'était au fond sa propre protestation. Je pense qu'il s'est identifié au rôle de Hagen dans ce moment-là, en disant « Oui, je suis forcé de faire tout ce que vous me dites là, mais c'est moi qui ai raison et c'est moi qui finalement l'emporterai ». Je crois que c'est un cas extraordinaire de coïncidence entre la texture du drame et son acteur.
Il arrive de temps en temps ce genre de choses au théâtre, hein, voilà. est un lieu plein de surprises. Alain Badiou, on va fermer cette émission avec le Crépuscule des dieux. Je vais signaler à nos auditeurs, s'ils ne le connaissent pas, ce livre, 5 leçons sur le cas Wagner, qui est paru chez nous il y a quelques années, qui est le seul livre vraiment que vous avez consacré à un sujet musical. Vraiment le seul, hein. Pourtant, on a bien compris tout au long de ces émissions que vous en connaissez un rayon. Et si vous en parlez à propos du Crépuscule des dieux, c'est qu'il y a l'idée dans votre livre que vous développez à un certain moment que finalement, ce qui se lève à la fin de ce crépuscule, en face de ces dieux qui sont en train de définitivement mourir, ben c'est un peuple, enfin une façon de peuple un peu problématique quand même.
Ce que je crois, c'est que la fin du crépuscule des dieux, on revient là au rêve 48 ans réprimé finalement de Wagner. La fin du crépuscule des dieux, c'est une chose assurée et une chose incertaine qui va se juxtaposer dans cette fin. La chose assurée, c'est que le monde des dieux est terminé. On n'y reviendra pas, les dieux sont morts, l'humanité ne peut plus se référer à l'histoire divine pour orienter son existence. Et puis la chose incertaine, c'est qu'est-ce qui vient après ? Et ça reste une interrogation. Brünnhilde, qui est chargée de tirer la morale de l'histoire, dans un grand monologue gigantesque, d'ailleurs intéressant au passage de remarquer que Wagner confie presque régulièrement aux femmes le soin de tirer la morale de l'histoire. Ouais.
Comme si elles étaient un peu plus lucides.
Voilà. C'est quand même à remarquer par les temps qui courent. C'est elle qui va, telle une prophétesse, indiquer l'avenir incertain. Et alors, cette incertitude, c'est celle de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est débarrassée des géants, des héros, des dieux, tout ça a disparu. Et il ne reste plus que quoi ? Mais il ne reste plus que l'humanité elle-même. Et au fond, la fin du Crépuscule des dieux, c'est cette incertitude, que va faire l'humanité d'elle-même ? Et la mise en scène de Chéreau était splendide sur ce point, car tout le chœur se rassemblait silencieusement sur la scène, et après la dernière note de Wagner, il y a un postlude, si je puis dire, musical, qui termine l'opéra, le rideau restait ouvert, et le chœur regardait le public, longuement, très longuement, interdisant les applaudissements d'une certaine manière, bloquant les applaudissements. Et c'était comme s'il disait à ce public, « Et maintenant, vous, qu'allez-vous faire ?» Et c'était ça, la fin du Crépuscule des dieux.
Thank you.
Les dernières mesures du Crépuscule des dieux de Richard Wagner, dirigé par Pierre Boulez à Bayreuth en 1980. Merci à Nelly Portal, Philippe Petit et Delphine Baudet. Je vous retrouve dimanche prochain pour le 8e et dernier épisode de notre Alain Badiou, philosophe et mélomane, Le Bel Aujourd'hui.
À réécouter sur francemusique.fr.